Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 21 juin 2008, c'est l'été, il fait beau et c'est la fin de la musique.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, le débrief, animation, le ciné, le DVD, la TV.
La suivi 2.
Ça c'est du sport, l'actualité en direct du Beuroi.
Et ensuite,
la fête de la musique, ça va être Jazz Not Dead, du reggae à partir de 15h. Ça c'est la bonne journée, la découverte musicale 17h, 18h Big Bang, 19h de Made in Trance, 20h la CTO Experience, 21h30 9 Love. Et à 23h, le live avec le potager. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier, bonjour.
Merci
du sport.
Merci d'avoir ramené le soleil qu'on croyait avoir perdu. Je suis sûr que Thomas est en fait la réincarnation d'Esteban et qui vient nous montrer le chemin vers les mystérieuses cités d'or, là où coule le miel et où sont tous les films de Godard. Ceci dit, j'espère que tout le monde va bien.
Oui, nickel.
Ça va, vous avez prévu le lait auto-bronzant et tout ça. En tout cas, on commence déjà à cuire dans le studio. C'est une bonne nouvelle, si je peux dire. On commence de suite avec la prog musicale avec Morshiba Tape Loop. C'est extrait de la, du best-of Parts of the Process. Vous êtes sur FMR 89.1.
Keeps on turning round.
Morcheeba donc sur Radio FMR 89.1 MHz. Le nom du morceau c'était Tape Loop. Et je vous préviens que tout à l'heure, si JB passe, je lui mets une crise cardiaque. Voilà. Et parce que c'est fait de la musique et tout ça. Thomas, bonjour et merci d'être venu d'Annecy. Tu serais bien resté. Hein.
Ouais, franchement, le cadre était sympa. Peut-être un peu trop loin de la mer, mais c'était bien. Ouais.
D'accord. Enfin, quand même, ça te manquait le foot.
Non, puisqu'on a pu voir le début du match France-Pays-Bas là-bas, c'était génial.
Un grand moment de football international.
Ah bah surtout qu'on a eu la bonne idée de se mettre, de se mettre à une table où il y a plusieurs Hollandais qui sont mis à côté.
Ça c'est du sport. On refait le match après 13h.
On refait le match.
Néanmoins, dans le domaine de l'animation, du cinéma animé, il y a eu un décès. Enfin, c'est pas vraiment de l'animation, c'est plutôt de l'animatronique, puisque on a appris donc la disparition d'une des personnes de génie qui ont fait des films hollywoodiens. Ce qu'ont les films hollywoodiens.
Ah ben, c'est clair.
Plein d'effets spéciaux.
Dans le domaine des effets spéciaux et du cinéma, on va dire, visuel, blockbuster, il y a ILM pour le numérique et il y a Stan Winston pour l'animatronique, pour les maquillages, ou plus
exactement. On en a parlé très souvent d'ailleurs ces derniers temps, notamment on en a reparlé dans l'interview à propos
de Iron Man,
voilà.
Alors Stan Winston avait 62 ans, il nous a quittés, il est mort d'une myélome osseux, un myélome osseux en fait, sorte de cancer. D'accord, la moelle. Et c'est en fait c'est un type qui est né en 46 et qui quitte sa Virginie natale pour rejoindre Hollywood à l'âge de 23 ans pour devenir acteur dans des films d'horreur, puisque sont le type de films qui a bercé son enfance. Mais pour payer son loyer, en fait, il accepte un boulot d'apprenti maquilleur chez Disney. Et c'est là qu'il va commencer sa vocation. En 72, il obtient un Emmy Awards pour le téléfilm Gargoyles et c'est le début d'une longue carrière dans le monde du divertissement fantastique. En 82, il reçoit son premier d'une longue série d'Oscars, il en a eu 4 pour son travail sur Art Beeps d'ailleurs. En 84, il y a un petit gars qui s'appelle James Cameron qui lui met le grappin dessus, il dit « Bon, toi, il faut que tu bosses avec moi, on va mettre au point les effets de Terminator ». Et voilà, il a lancé sa carrière, il est devenu mondialement connu. Suivront des créatures aussi célèbres que The Thing, Aliens, Monster Squad, Predator, Leviathan, Edward Romaine d'Argent, Batman Returns, Jurassic Park, Small Soldiers, plus récemment Iron Man. Donc vous voyez que le bonhomme, il a un peu contribué au maquillage et aux créatures de tout le bestiaire fantastique moderne. Il était en train de bosser sur Terminator Salvation, The Future Begins, le prochain donc Terminator, avec Christian Bale dans le rôle de John Connor, réalisé par Mac G. Bon, le mec, il était un peu responsable de Charlie's Grand de Dame, alors bon.
Mac G, aïe.
Oui, voilà.
Bon, enfin non, mais il est capable de faire des trucs pas trop mal, mais...
Bah, on verra, et il était aussi en train de bosser sur le nouveau projet de James Cameron, qui s'appelle Avatar, c'est l'Arlésienne, hein, depuis quelques temps.
Oui, ça fait des années, hein.
Voilà, bon, on sait que le Cameron était intéressé par le projet le Gun, là, t'as en live, nul doute que...
Battle Angel Alita.
Voilà, nul doute que...
Ouais, enfin,
que
Winston... il achète plein de droits pour empêcher les autres d'être meilleurs que lui, quoi.
Peut-être. Voilà. Après, il faut savoir que c'est un fan de Japanime aussi, donc il y a pas de doute sur la qualité qu'aurait été que va être le long métrage, et nul doute que Winston aurait bien bossé sur l'adaptation de Gun. Il a été également Stan Winston réalisateur en 88, il a réalisé donc Pumpkinhead, le démon d'Halloween. En 96, il s'est occupé du court-métrage Terminator 2 3D, Battle Across Time. Il a également réalisé en 96, la même année, Ghost, c'est le court-métrage clip avec Michael Jackson. Et il a également été réalisateur de seconde équipe sur Terminator, Aliens, Congo, quelques films comme ça. Donc, quand vous voyez sa filmo, Small Soldier, Joe Dante, Steven Spielberg, James Cameron, vous voyez un peu le genre de cinéma auquel il était apparenté.
Je crois que tu parlais de Michael Jackson. Je crois qu'il fait également, c'est lui qui fait les maquillages de Thriller, enfin bon, c'est-à-dire le clip le plus connu, hein, le long métrage où ils sont en vampire et tout. C'est lui qui fait également tous les maquillages, toute la partie.
Et j'ai cru que t'allais dire que c'était Stan Winston qui avait ravalé la façade de Michael Jackson.
Oh là. Non, pas du tout.
Ouh, terrain glissant.
Non.
Stan Winston, repose en paix, toi qui nous as bien fait des terreurs au fin fond de nos nuits. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est bientôt l'été. Enfin. Et plein de gens vont avoir tout plein de temps libre pour lire tout plein de BD. Alors des BD.
Mais pas que. Hein.
Mais pas que. Il y en a eu un stock et mes collègues de la CBD se sont réunis et se sont dit bon allez, on va essayer d'en choisir 20 qu'on va considérer indispensables pour l'été. Alors 20 titres à choisir qui sont sortis entre le 10 novembre dernier et le 10 juin, ce qui fait 2200 bandes dessinées qui sont apparues en ce moment-là. Ça fait beaucoup. On écarte les mangas puisqu'ils ont leur prix à part qui tombe à peu près au même moment, c'est le prix AsiBD qui sera remis lors de Japan Expo, on en parlera la semaine prochaine. Et donc on va en sélectionner 20 titres que des journalistes doctes et sûrs de leur goût ont décidé que c'était des indispensables. Non allez, je déconne, mais il y a quand même de très bons titres dedans, jugez-en. Spirou, le journal d'un ingénu par Émile Bravo aux éditions Dupuis, on va pas revenir dessus, c'est très bon. R97, les hommes à la terre, par Christian Caillot et Bernard Giraudot chez Casterman. Le combat ordinaire de Manu Larsenet, dont on en est au quatrième tome, là aussi, on peut difficilement râler là-dessus. Maria Jane Canary, le tome 1, s'appelle les années 1852-1869, par Mathieu Blanchin et Christian Périssin chez Futuro, je ne l'ai pas lu. Le journal Une histoire vraie, par Serge Clair, le biopic de Métal Hurlant. La guerre d'Alan, le tome 3, qui en fait est une version romancée de l'histoire de Alan Ingram Cobb, qui est un Anglais qui a fait la Première Guerre mondiale, les tranchées en France. De Gaulle à la plage par Jean-Yves Ferry. Breakdown par Hatch Spiegelman, le nouveau. Exit Wounds par Rutu Woodman aux éditions Actes Sud, là aussi rien à redire. L'envolée sauvage, le tome 2, c'est Les Autours des Palombes par Arnaud Monin et Laurent Galandon aux éditions Bambou. Je m'en souviens plus, je crois que j'en ai parlé. Lettre d'Agathe par Nathalie Ferru aux éditions Delcourt. Géronimus, premier tome s'appelle Un homme neuf, par Jean-Denis Pendant et Michel Dabitch chez Futuro, aussi je ne l'ai pas lu. Le rêve de Meteor Slim par Franck Duchazot. Autobio par Cidril Pedrosa chez Audi Édition. Château Latente par Myriam et Medley chez ça et là. Amère Saison par Étienne Schreider dans la collection Écriture chez Casterman. RG, la série sur les renseignements généraux. Bangkok Belleville par Frédéric Peters et Pierre Dragon chez Gallimard. Le goût du chlore par Bastien Vivès chez Caster aux éditions Casterman. Bouncer, le tome 6, le nouveau François Bouc, Jodorowsky chez les Humanoïdes Associés. Et pour terminer, Les Funérailles de Luce par Benoît Springer chez Vent d'Ouest. J'ai pas pu tout lire déjà, mais je peux vous dire que connaissant mes collègues, c'est loin d'être inintéressant et il fallait bien faire un choix sur les 2200 nouveautés qui sont sorties. Il y a un peu tout. Il y a du comics, de la bande dessinée européenne.
Enfin, du comics, pas trop quoi.
La bande dessinée japonaise et asiatique, ce sera pas, on en parlera la semaine prochaine, puisque pour l'instant on en est aux présélections du prix Asia CBD. Et donc, y a 170 autres albums qu'on aurait pu retenir pour vous cet été, mais on les a pas tous gardés, c'était pas possible. Voilà, donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums à découvrir. Et donc, tant mieux, la liste complète est sur actuabd.com avec les chroniques afférentes, qui est notre partenaire dans l'écriture de cette émission. On va entamer d'ailleurs justement les sorties bande dessinée. Oh pardon, excuse-moi Thomas.
Oui, avant nous allons faire une petite revue de presse avec nouveau numéro de Ciné Live de juin, numéro 124, avec en couverture Matthew Fox. Non, ce n'est pas le Matthew Fox de Lost, c'est le Matthew Fox de Speed Racer.
Ah, je croyais L'Oréal.
Aussi, ouais.
Moi, j'adore l'action.
Non, non, stop, s'il vous plaît, pas de pub, merci.
Forest et Frey.
Voilà, alors évidemment, c'est un gros dossier sur Speed Racer avec interview de Matthew Fox. Tout le monde est gentil, tout le monde est super fort. J'ai trop de chance de travailler avec les Wachowski. Une interview de Emil Hirsch, rescapé de Into the Wild. Alors tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est tellement talentueux, c'est trop génial de travailler avec Joel Silver et les frères Wachowski. Un dossier sur Speed Racer, genre double page pour dire qu'est-ce que c'est Speed Racer. Il y a eu d'autres réalisateurs avant les Wachowski associés au projet d'Anania. On a également, hormis Speed Racer, un portrait de JCVD, on va dire succinct. Tout fan de JCVD en sait plus que ce qui a marqué dans cet article. Bon, voilà, c'est les Jed. Nous avons une interview d'Eric et Ramsey qui est assez sympa, une interview du quatuor d'actrices de Sex and the City, un portrait de Christopher Reeves et un reportage sur le tournage du dernier Clint Eastwood, l'échange avec Angelina Jolie, et également en preview Le Transporteur 3 et Bangkok Dangerous avec le remake par les propres réalisateurs avec Nicolas Cage. Remake américain avec Nicolas Cage.
Eh ben moi je vais prendre un verre d'eau parce qu'on commence à faire très chaud en studio. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la température commence à être affolante. Ça va faire quand il sera 14 degrés dehors. On va commencer la chronique bande dessinée. Pour une fois, c'est pas moi qui va le faire. Thomas a décidé de prendre en main l'émission et de se dire on va parler du lourd, du solide, du costaud.
Bah, c'est juste que ça faisait longtemps que je le reportais celle-là et il fallait quand même qu'on en parle. Donc c'est Pandala, le tome 2. C'est un bel objet, je vous le montre.
Ouais, très très beau bouquin, format comics cartonné, 192 pages.
Voilà, donc c'est édité chez Ankama et ça reprend la saga Dofus et c'est à peu près le même format que l'album Maliki que nous avons chroniqué ici. Donc ça raconte l'histoire.
En interview la semaine prochaine, Maliki.
Exactement. Ça raconte l'histoire du jeune Pandravan qui accepte de suivre Léopardo, donc c'est un léopard. C'est partie des races qui peuplent le monde de Dofus, à la recherche d'on ne sait pas trop quoi. En fait, il a recherche d'abord d'une carte qui va lui permettre d'accéder à un autre lieu assez mystérieux dans la forêt. Rien n'est expliqué parce que le propre de cette BD, en fait, c'est qu'il n'y a aucun texte, aucune bulle, et pour justement laisser la place aux illustrations. Alors, on peut être certes emballé par les décors, on sent que le mec est adorateur de dessins animés japonais à la Miyazaki, mais par contre, on va être, je sais pas pour vous, mais assez refroidi par l'aspect des personnages avec des grosses cernes noires qui ne s'intègrent pas très c'est pas très évident en fait la façon dont ils s'intègrent sur le décor. T'as l'impression que ce sont des cellulos avec des personnages qui sont faits pour être animés par-dessus, mais en aucun cas ils sont en interaction avec le décor. Donc on a des superbes ambiances, mais voilà, encore une fois, des personnages, même s'ils ont des bonnes bouilles, hein, c'est pas le problème, c'est le rendu en fait qui pêche un petit peu.
Le décalage hein, qu'il y a entre le premier plan et le fond, quoi.
Ouais, tout à fait. Et on a vraiment l'impression que le mec s'est amusé à prendre un personnage fait avec toute autre technique et les mettre par-dessus un décor. Alors évidemment, du sport là est en train de feuilleter les inévitables dernières pages de tout album Ankama, puisque ce sont des travaux par les autres graphistes de l'éditeur.
C'est vrai que c'est la politique éditoriale d'Ankama, c'est justement mettre en avant le travail de tous ces illustrateurs dans les albums, puisque c'est vrai qu'ils ont une équipe qui fait du dessin animé, les autres qui font les jeux vidéo, donc qui n'ont pas forcément d'album pour s'exprimer.
Et puis surtout, c'est un moyen pour les autres dessinateurs de donner leur version, leur vision des personnages développés par leur collègue Bertrand Autain. Ce sont des recueils de fanart à la fin de chaque tome. Alors le principe de Pandala, on en est au deuxième tome, c'est que dans le premier tome, les personnages principaux étaient enfants, ils étaient tout petits. Là, ils sont devenus ados et donc il y a des combats, les personnages sont aux prises avec des personnages directement issus de la culture japanime, dessins animés américains, puisque on voit une grosse référence aux Tortues Ninja. Il y a aussi une
dessin animé américain, oui, plutôt.
J'ai dit américain, ouais.
Et ouais, mais bon, il y a une image où tu les vois les quatre et tout, mais après tu vois qu'ils sont vachement plus, quoi.
Oui, voilà. C'est la référence et on a également aussi une référence à Dragon Ball. Puisqu'il y a Léopardo qui se prend un tir à un moment donné, qui est la copie conforme et le même plan que la fameuse image très célèbre de Piccolo qui transperce Sangoku avec son rayon qui fait les tourbillons là. Voilà, ça,
je m'adresse Kamayuka.
Non, c'est pas un Kamayuka, c'est le Makako Sampo. Voilà. voilà ce qu'on pouvait dire sur Pandala, deuxième tome adapté de la saga Dofus par Bertrand Autain. C'est édité chez Ankama et ça fait quelques temps que c'est déjà sorti.
Je te rassure, moi aussi, j'ai un bouquin en retard. Alors, je disais tout à l'heure que Thomas était super déçu de la superbe performance française.
Bah, déçu,
et
tant pour moi, la vérité.
Pourtant, ça n'est que du foot, et le foot, ça reste des fois bien médiocre.
Alors là, par contre, on avait un débat avec du sport tout à l'heure pour savoir si on était très méchant avec cette BD ou moyennement méchant ou si on était indulgent. Alors je sais pas. Ma chronique va être à la hauteur du sale moment que j'ai passé à lire cette BD en tout cas. Ça s'appelle la fureur du foot.
Oui, des fois on reçoit des bouquins, mais on les lit pas par plaisir, on les lit par obligation. C'est comme les nouvelles BD de Miyazaki, c'est comme les nouveaux films de Miyazaki, on n'y va pas par plaisir, on y va par obligation.
Oui,
voilà. Non, pardon, voilà. Je déconne.
Alors, c'est dans la collection La fureur du sport, apparaître La fureur du rugby. Alors, on sent dans La fureur du foot que c'est une BD qui a été bricolée en 4ème vitesse pour sortir avant l'Euro. Alors, comment dire ? On va dire que les blagues en barre, les blagues télé Z, toutes les blagues qui ont trait au sport sont 100 fois plus drôles que ce qui a marqué dans ce bouquin. Tu vois, le bouquin se divise en deux parties. Il y a des gags en une planche dans une première, et à la fin, il y a l'épopée d'Aimé Jacquet pendant l'Euro 96. Alors, la première partie, tu vois vraiment que c'est un gars qui n'y connaît rien au foot. Franchement, c'est le... On va dire que les gars pour qui le foot se résume à des bofs avec leur bière, c'est encore très en deçà de la vérité. Et à côté, ces gars-là, ce sont des adorateurs du foot, tu vois. Donc là, tu vois, c'est pas que le mec connaît pas le foot. Bon, à la limite, c'est pas un défaut. C'est pas que le mec déteste le foot ou qu'il l'adore, c'est pas le problème. C'est que c'est pas drôle. Le mec, tu t'imagines un gars lambda dont la profession n'est pas du tout dessinateur ou scénariste, il se dit tiens, faut imaginer un gag autour du foot. Premier gag qui arrive qui est pas forcément drôle, ben voilà, il est placé dans le BD. Dans la BD, c'est assez hallucinant. Et la deuxième partie, je disais, ça retrace l'épopée d'Aimé Jacquet pendant l'Euro 96. Et ça adopte un petit peu le révitation, un peu comme les guignols, tu vois, un peu acerbe et tout. Sauf que c'est encore une fois pas drôle, c'est. Ben oui, enfin, on a l'impression que le gars il essaie de dire oui, je connais l'épopée d'Aimé Jacquet en 96. Oui, ben voilà, c'était un festival de 0-0 et il en fait rien quoi. C'est je connais, je mets en image, voilà, c'est tout. c'est assez hallucinant cette BD. C'est bon, voilà. Après, bon, le truc,
c'est
gros,
le piège de supermarché quoi.
Ah ben là, c'est, je pense qu'on peut difficilement faire 40... plus BD de supermarché que ça.
Ça fait partie des 40% des BD qui sont juste offerts pour offrir. Sans
oui.
Regarder.
Oui, si t'aimes pas ton ami à qui tu l'offres. Ouais. Et bon, après, le rigolo, c'est voilà les noms des joueurs.
Ouais, c'est ça.
Y a Kiloupe qui tape, Kiloupe le ballon, Cannelloni qui engage, Kusek qui intercepte.
Kusek, il est polonais.
Voilà, repris par coup de boule qui met sa tête, déviation de pas de cul.
Il y a Papoto aussi.
Voilà,
c'est les chansons là.
Shoot Bruxelles, voilà. Bon.
Ok, alors on va dire que c'est une BD qui est lisible, mais passé un certain âge, il vaut mieux lire autre chose. Voilà. Je pense que la conclusion
je pense
est
que tu as été diplomate et tout à fait.
La conclusion est bonne. Hein.
Voilà, ouais. On va rester là-dessus.
D'accord. On redonne donc La fureur du foot de Hechet.
Alors, La fureur du foot dans la collection La fureur du sport. Chez le Funambule Idées Passion BD, par scénario et dessin par Paul Claudel et couleur par Fabien Ripper.
On va parler de comics de super-héros, mais attention, de comics de super-héros anglais, puisque c'est Paul Cornell qui est au scénario, Trevor Ersine qui est au dessin, avec, après, c'est Manuel Garcia qui, lui, est un Espagnol qui a fait carrière aux États-Unis et qui est revenu et qui a bossé pour l'Angleterre. Wisdom, donc, premier tome de cette série consacré à un personnage qu'on avait déjà vu auparavant. Rudiment de sagesse, donc, vient de sortir chez Marvel Panini. Peter Wisdom, c'est le boss du MI-13, l'agence des services secrets britanniques, exclusivement consacrée au phénomène Freeric, Fantastic et Phantasmagoric. Et là, il y a du pain sur la planche. Il y a du thé à abattre, à faire infuser. Enfin, les automistes fées qui massacrent des humains au coin des bois, Jack l'éventreur qui ont fait parler de lui et de ses multiples thèses. Sans compter le dragon du pays de Galles qui se bourre la gueule dans un pub et qui a décrété que désormais il dirigerait la criminalité organisée. Et évidemment, comme dans toutes les bonnes agences de services secrets, ben, Peter Wisdom doit composer avec le MI6 qui aimerait bien récupérer une bonne partie de ses affaires. Affaires qui n'ont pas lieu officiellement sur le territoire anglais, donc c'est les affaires qui sont ont lieu à cause de l'étranger, donc oui, ça peut... Non, bon... Faut dire que ben l'équipe de MI-13 fait un peu pas très militaire, on a une elfe dissidente qui achète ses fringues gothiques à Soho, un John Lennon version Skrull Beetle, une version Midland de Captain America, sans compter une très belle clairvoyante qui n'est hélas pas télépathe. Pourtant, sur les affaires fantastiques, le MI-13 est l'agence la mieux qualifiée et qui obtient les meilleurs résultats. Bon, par résultat, moi j'entends une résolution définitive des problèmes. On va pas compter les dégâts collatéraux. Hein. Voilà. Personnage créé par Warren Ellis, Peter Wisdom erre dans l'imaginaire britannique. Rencontré des fées, des trolls, où le roi Arthur n'est absolument pas un problème pour lui. Du moins, tant qu'ils viennent pas foutre le bordel dans l'Angleterre dite normale. Si un parti travailliste qui fait les affaires de la droite peut sembler normal, enfin bon. On sent l'influence profonde d'Alan Moore sur comment mettre dans de la bande dessinée de super-héros des références très précises de la culture populaire classique. Seulement, avec Warren Ellis comme papa, le personnage est forcément bourrin, placé dans des événements à tendance parfois gore, bref, ça envoie. Et heureusement que Paul Cornell a su en garder l'esprit. L'autre originalité de la série, c'est de ne pas céder à la mode victorienne du steampunk. Le Royaume-Uni nous est contemporain et les menaces qu'il déborde proviennent tous de sa fertile imaginaire. Petit peuple issu du folklore, personnage fictif de roman et personne réelle dont la vie a été très fortement romancée. C'est un bonheur à lire, ça envoie, ça déchire, ça race. Wisdom, le premier tome s'appelle Rudiments de sagesse, de Paul Cornell au scénario et Trevor Hersine et Manuel Garcia au dessin. Ça vient de sortir en France dans la collection Marvel chez Panini.
Ouais, à signaler que Peter Wisdom est également présent dans la saga New Excalibur, hein, qui est mensuelle hein, dans le Astonishing X-Men. Hein,
dont en fait il a, les histoires se déroulent théoriquement juste avant.
Ouais,
voilà.
ouais. Et qui est scénarisé par Chris Claremont. À signaler que, enfin, j'ai feuilleté, hein, peut-être que ça y est quand même, mais enfin bon, dans New Excalibur, Peter Wisdom est un personnage qui fume des cigarettes. Et c'est bien montré, hein, d'ailleurs, bon, on le voit assez bien, pas dans cet épisode, mais dans les épisodes précédents, dans la précédente aventure de New Excalibur. Alors que là, ben, on dirait que le politiquement correct a à nouveau fait
les
siennes.
Non, John Skrull Lennon fume déjà de sacrées tarpées.
Oui, non, mais je parle pas de Skrull Lennon, je parle de Peter Wisdom, du héros, quoi.
On va revenir en France avec Christophe Gibelin, qui est un scénariste mais aussi un dessinateur. On a déjà parlé de lui plusieurs fois sur plusieurs séries. Les Ailes de Plomb, le tome 5, Dog for Frisco, est sorti depuis pratiquement un mois dans la collection Sans Froid chez Delcourt. Et dans les trois premiers tomes de cette série, eh ben, on suivait Patrick Plomb, qui était mêlé dans une histoire d'espionnage industriel, aéronautique, ce qui le fera remarquer par la sécurité du territoire. Et passer son brevet de pilote après quelques heures de vol non déclaré. Le précédent album l'avait mis au cœur d'une affaire, d'une tentative de coup d'état militaire. Bref, les sales situations s'enchaînent, surtout qu'il est souvent tenté par sa propre malhonnêteté. Et peut-être qu'il est temps de songer à sa reconversion. Plomb a décidé de se recycler dans le journalisme. Enfin, c'est décidé. Son premier reportage se déroule dans des conditions plutôt louches. Il est séquestré depuis 15 jours dans une auberge alsacienne par les services secrets. Inutile de dire qu'il est légèrement encadré et que son papier va lui être un petit peu dicté. Néanmoins, toujours que tard, c'est la femme de l'aubergiste qui le culbute en douce, mais qui n'échappe pas à ses anges gardiens. Et voici que, tout d'un coup, les officiers du renseignement, enfin bon, moi j'appellerais ça plutôt des barbouzes, lui annoncent qu'il va couvrir en toute exclusivité le crash d'un avion militaire soviétique sur le territoire français. Et il explique carrément qu'il s'agit en fait de couvrir la désertion d'un pilote. D'un drôle de coup quand Plomb se fait manipuler aussi bien par les Français que par les Américains. Mais va-t-il se montrer aussi docile? Et surtout, est-ce que les soviétiques vont-ils mordre à l'hameçon? Christophe Gibelin cerne très bien cette époque de fin des années 50 où la France a peur d'une invasion éclair du pacte de Varsovie, où elle s'engage dans une guerre sanglante en Algérie alors qu'elle vient de perdre l'Indochine, où elle joue non seulement sa place de puissance industrielle mais surtout celle de puissance militaire alors qu'elle perd presque toutes ses colonies. Ce deuxième cycle est toujours aussi passionnant Et pourtant, cela fait bien 10 ans que la série a débuté. Nicolas Barral avait décidé le premier cycle de 3 tomes autour du Balbuzard. Christophe Gibelin a repris la gestion complète de son histoire et donc s'est mis au stylo, au dessin. Et évidemment, il faut faire confiance quand même à ce spécialiste de l'aviation puisqu'il ne manque aucun boulon à un MiG-17. Petit souci, moi j'ai été gêné parce que des pages complètes sont en allemand non sous-titrées. Ah. Alors désolé Christophe, toi qui nous écoutes parce que tu es sur Toulouse. Moi j'ai été un petit peu largué évidemment du sport, on regarde avec un large sourire en disant nous on s'est pas fait envahir pour rien. Bon, Christophe Gibelin, Les ailes de plomb, le cinquième tome s'appelle Dog for Frisco, vient de sortir dans la collection Sans Froid chez Delcourt. Midi 30 minutes et 37 secondes et la régie pub me dit, tu sais, il est pas trop tard.
24 juin, jour J. J comme juin, J comme jazz, J comme Joe Jackson. Le 24 juin, le conseil général de la Haute-Garonne invite Joe Jackson pour un concert exceptionnel. J comme j'y vais. Joe Jackson au bikini le 24 juin. Réservation dans les points de vente habituels et au 05 34 45 58 30. Avec le conseil général de la Haute-Garonne, le jazz toujours. www.jazz31.com.
Slow Train, je le cherchais depuis longtemps, je l'avais dans la discothèque en fait. In the Black of Night, mais c'est pas la version originale, c'est Laura's Barroco Remix. Bang, 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 feel the killer lane, whiz on past, miss my head, left turn, watch the crimson flow, brother man, on the floor, ching, 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 let the dollars go, cause life ain't messing around no more, stone cold, when they knock me out, in the black of night, I heard them shouting, murder, yeah. In the black of night, murder, yeah. In the black of night, murder, murder. Bright white light up ahead, screaming sirens that I dread. But me to be a witness to this tragedy. Brother man with open eyes, single tear that he cries. Smiles at me and stands up tall in the black of night. I heard him shouting, murder, yay, black of night. I heard him shouting, murder, yay, whoa, whoa. To me, before the son of Samody finds you here in this place, pay look now on his face. But before I could go, the villains they return for more. The clock did stop dead on four in the black of night. Heard him shouting, murder. Train. l'actualité cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas. Et pas en stop motion d'ailleurs.
Et oui, et nous allons un peu parler du festival du film d'animation d'Annecy qui s'est clôturé samedi dernier. C'était la 32e édition et la 18e édition du MIFA, donc c'est le marché international. Alors là, cette année, le pays invité c'était l'Inde. Donc il y a eu 4 programmes, une conférence, une importante délégation indienne. Alors à l'heure où je vous ai parlé au téléphone la semaine dernière, je n'avais pas vu la session de films de télévision indien. Nous l'avons vu l'après-midi et franchement c'était génial.
Il y a vraiment des perles qu'on manque.
Alors des perles, oui, enfin c'est des perles parce que c'est exotique. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des chefs-d'œuvre, mais en tout cas, les pubs là-bas sont vraiment super. Il y a aussi des courts-métrages de télévision qu'on a vus. Alors c'est très orienté Krishna, etc. C'était la 3D très propre, mais très flashy. Alors disait, le rendu est un peu trop net, on va dire. Mais c'était bien sympa. Les pubs assez inventives et tout. Bah c'était du culture pub spécial Inde, hein, si tu veux savoir. Donc c'était assez pas mal. Donc cette année il y avait 1867 films qui avaient été inscrits, plus de 500 films projetés, 284 films composés de la sélection officielle, 216 en compétition et 34 pays représentés. Donc c'est du lourd. 115 000 entrées comptabilisées, 6700 professionnels accrédités.
Donc, sachant que c'est plus un festival orienté professionnel que Angoulême. Hein.
Oui, oui, ça se rapproche plus, on va dire, du festival Imagina de Monaco que.
C'est très très bon score parce qu'Angoulême, c'est 200 000 visiteurs. Là, ils sont à 115 000, pas mal. Hein.
Ouais. Et là, il y a une grosse proportion de journalistes. Alors, en provenance de 63 pays, les professionnels, 180 acheteurs et 300 journalistes qui ont couvert l'événement. Voilà, c'était du lourd. Bon, alors, je vous l'ai dit la semaine dernière, festival qui avait toutes les conditions réunies, beau temps. Il y avait évidemment c'est tourné face au lac, donc évidemment il y a tout le monde qui va pique-niquer à côté. Il y avait une projection du film Les Simpsons en plein air pendant France Pays-Bas d'ailleurs, enfin juste après, pour aller noyer son chagrin devant Les Simpsons, c'était pas mal. Bon, alors évidemment, je vous l'ai dit aussi, c'était Matt Groening, gros invité d'honneur en plus de l'Inde, hein, puisqu'il a été juré. Il n'était pas président du jury, j'ai vérifié entre temps. il a fait 200 de dédicaces. Alors, il faut savoir que les dédicaces ont monopolisé pas mal de gens, mais le festival n'est pas tourné autour des dédicaces, comme c'est peut-être le cas en Angoulême, où il y a beaucoup de gens qui y vont que pour ça. Alors, vu le public qui était là-bas avec des. Tu vois, c'était des gros geeks de base avec habillés avec des t-shirts John Simpson et tout. Tu vois que c'était là que pour ça, par contre. Mais voilà, donc Matt Groening super dispo. Le festival fêtait les 100 ans du cinéma d'animation avec un hommage à Emil Cole. Donc j'ai dit la semaine dernière avec une belle expo sur Richard Williams de Roger Rabbit. On va un peu parler du palmarès. Donc. Le palmarès, le Crystal d'Annecy est allé au court-métrage La Maison en Petit Cube, c'est un film japonais. Pour le long-métrage, c'est Sita Sing the Blues, c'est un film américain. D'ailleurs, c'est d'inspiration indienne, hein, le visuel et tout. On a cru qu'au départ, c'était un film indien qui avait gagné. Donc c'est...
Sita, c'est la femme de, enfin, une des femmes de Vishnu, voilà.
D'accord. Merci du sport pour cet éclairage. Donc c'est Sita Sing the Blues qui a remporté le cristal du long métrage. En série télé, c'est un film série française, Mout Mout, l'enfer de la mode, qui a remporté le cristal pour la production de TV, ainsi qu'une série anglaise. Alors parmi les films que nous on a vus, donc il y avait la dama en el Umbral, prix spécial du jury espagnol, enfin c'est un film espagnol qui pour la catégorie court métrage qu'on a bien apprécié. C'est un film assez glauque, l'histoire d'un ancien copain d'un marin qui va rendre visite à son vieux pote, et en fait son vieux pote est devenu un homme tronc, il a des crochets à la place des bras, il a plus de jambes et tout, parce que ils sont naufragés avec ses amis et avec sa femme, et ils ont été de se bouffer entre eux pour survivre. Donc c'est un film assez glauque d'après Gaston Leroux d'ailleurs. Assez sympa. On a vu également un autre film qui a été primé, c'est un film de fin d'études, Caméra Obscura, donc évidemment c'est Supinfocom, hein, donc voilà, bon, c'est du critère de qualité. Histoire d'un gars qui une restitution en 3D en noir et blanc, très très beau, d'un homme qui perd la vue en fait. Donc c'est super joli avec des silhouettes, puisque il voyait juste des silhouettes, il voit plus les visages, et donc c'était des silhouettes en 3D en bois avec là où il y avait la tête, en fait c'était creux, c'était des cuillères, en fait c'était super joli, avec justement un mélange de prise de vue réelle et un hommage au film muet noir et blanc du début du XXe siècle. Et alors personnellement, nous avons assez accroché avec Sabrina sur un film qu'on avait déjà repéré sur le catalogue qui s'appelle Piano No Maurice, Piano Forest. Alors je vais vous retrouver les références. Donc c'est par le réalisateur de la série Monster quand même.
Ah oui, d'accord.
Voilà, par Masayuki Kojima. Et c'est un film très délicat, un peu comme La Traversée du Temps dont on avait déjà parlé. C'est pas... Il n'y a pas des... C'est pas un gros moment de mise en scène, mais c'est un petit film délicat sur deux écoliers qui chacun sont passionnés de piano. L'un, un fils de bonne famille qui a appris le piano, qui a plus subi l'apprentissage du piano, mais qui est néanmoins passionné par cet art. Et l'autre qui est un peu plus un enfant sauvage, qui va jouer au piano, un piano abandonné dans une forêt, qui avait été conçu spécialement pour un ancien professionnel du piano, de la musique, qui a dû abandonner le piano à cause d'un accident. Et ce piano ne peut être joué que par une personne, et c'est tombé sur ce petit enfant. Donc c'est un film très doux, délicat, très frais. Alors ce film concourait dans la catégorie pour la compétition long métrage. Il a rien eu, c'est dommage, aux côtés du film Tous à l'Ouest, une aventure de Lucky Luke, et de Appleseed Ex Machina, toujours de Shinji Aramaki. C'est la suite du film qui avait fait l'objet d'une sortie technique que nous avions chroniqué et qui était pas terrible, et d'après ce que j'ai entendu, la suite n'est un peu du même acabit, c'est dommage.
Aïe.
Alors par contre, le gros truc qu'on retiendra du festival, c'est quand même... Alors il y a une tradition chaque année, c'est qu'il y a un film d'animation qui est réalisé pour présenter, c'est une bande-annonce pour présenter les partenaires du festival avant chaque projection, court-métrage, etc.
C'était un lion, non?
Alors cette année c'était la famille Mandarinenko qui passe à la télé, et c'est absolument génial, la famille avec une vache qui parle, etc. Ils s'y font un numéro dansant, enfin avec des guitares complètement jetarbées dans la rue, et ça tu le vois qu'à la fin, et c'est enchantant. Donc il dit le 32e festival d'animation avec le conseil général de Rhône-Alpes, et c'est génial, c'est ça présente tous les partenaires, Ciné Live, etc. Le film finit par des avions en papier qui sont dessinés sur l'écran, et évidemment donc les festivaliers se sont pris au jeu, et à chaque projection il fallait éviter les avions en papier. Ça fait assez mal quand tu t'en prends dans la gueule, hein, je confirme. Et même pendant les présentations officielles par DreamWorks avec les huiles qui étaient là et tout, il y avait les avions en papier qui filaient sur scène. Alors les mecs réalisateurs du nouveau DreamWorks, ils disent youhou, ouais, bravo. Voilà, c'était assez amusant. Donc Marie Mandarinenko qui a fait la présentation des partenaires cette année, c'était vraiment une super idée.
Alors, il y a un film que nous souhaiterions parler, on en parlera tout à l'heure, on a eu un petit souci, donc on va lancer une pétition, on vous en parlera, c'est juste le temps que je retrouve en fait le fond sonore de ce qui suit, je suis désolé Thomas, pardon.
Oui, il n'y a pas de souci, donc nous pouvons nommer le film en question.
Non, on le fera après, d'accord. Ça sera plus drôle. Générique. Alors, en faisant la revue de presse, Thomas avait donné l'indice des deux films qu'il allait chroniquer tout à l'heure. Oui. Et donc, je suppose que vous avez reconnu, même si c'est remixé par Groove Armada, le thème de la série de HBO.
Alors, Sex and the City. Alors, je crois que le film est encore à l'affiche. Désolé,
ouais,
on en parle
bien,
un peu tard. On va faire rapide sur le film. Donc c'est évidemment l'adaptation de la série télé avec toujours les mêmes actrices, Cynthia Nixon, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Christine Davis et Chris Knott. Et donc ça raconte justement la série, c'était les trentenaires célibataires, et le film c'est les quarantenaires qui sont plus célibataires, ça dépend lesquels. Et Carrie va, on va dire, tenter de se marier avec Mr. Big.
Donc on connaît enfin son nom.
Oui, alors c'est un nom composé. Hein,
Bon bah on va pas le trouver alors.
Attends, je crois que c'est...
Ah non, on va pas le dire.
Ouais, on va pas le dire. Non. Alors,
sinon non, sinon nos meufs vont nous massacrer.
Alors. Voilà. bon, alors ce qu'on peut dire sur le film, c'est dans la lignée de la série. Hein, donc ce qu'on pouvait... on pouvait être déçu peut-être par le côté on va étaler un long épisode sur un long métrage. C'est pas trop le cas, il y a quelques longueurs. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont gardé le côté impertinent de certaines répliques sur le sexe notamment. Donc évidemment, Samantha en grand écran, c'est génial. Hein, toutes les répliques qu'elle peut sortir, on pouvait imaginer. Alors c'est ça qui est d'ailleurs surprenant dans le film, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit côté dans le film, pendant 10 minutes, tu vas avoir un petit côté édulcoré, parce que c'est la romance de Carrie qui est au premier plan, avec Mr. Big, mariera, mariera pas, tout ça. Et puis à un moment donné, il y a Samantha qui fait une grosse... grosse réplique bien scabreuse et tout. Oula. Après le film reprend son cours là. C'est assez amusant de ce côté-là. Évidemment le film est une apologie du luxe forcément puisque c'est oh là là, t'as pas le dernier sac, dernier cri et tout. À la fin elle offre un sac à une nana. La nana c'est le plus beau jour de sa vie. Bon, on va pas citer de marque tout ça, mais bon voilà, le film c'est un peu ça aussi.
Du placing lourd quoi.
Voilà. elle a trois amis, Carrie, donc chaque ami a un petit peu sa sous-intrigue à elle. On sent un peu que c'est un peu du remplissage, mais bon voilà, c'est le film frais. Que si vous avez aimé la série, on adore le film. Tu sors du film avec la banane, tu sais que tu vas pour avoir une comédie légère. C'est dans la lignée des bonnes comédies légères avec Julia Roberts à la Notting Hill ou des trucs comme ça, voilà.
On va parler forcément du film, ça fait quand même, on a fait le teasing depuis février dernier hein, je pense, parce que la bande annonce était magnifique et donc on s'est dit super, un acteur avec un vrai travail d'acteur là où on ne le connaissait pas, forcément on allait en parler, il n'y a pas de souci. Et malheureusement on s'est fait avoir,
on a traîné et il est plus à l'affiche.
Ben si, j'ai vu la projection la plus proche est à 130 km dans la salle des fêtes de Fouzin ce jeudi soir à 21h. On lance officiellement une pétition parce que je suis surpris et même absolument scandalisé que des spécialistes quand même du cinéma d'auteur, d'art et d'essai, indépendants et plutôt allumés et... en général plus orienté sur justement la vie quotidienne, n'en parle pas. Il faut que l'Utopia passe JCBD. Point barre.
Bah en même temps, c'est un film en noir et blanc, tout ça. Et
les
cinémas se sont dit, noir et blanc, ça va pas emballer le public. Il faut mieux passer Bienvenue chez les Ch'tis, c'est autrement plus vendeur. Hein.
Bah oui.
Oh, c'est pitoyable. Alors que c'est juste un petit peu plus au nord que Bienvenue chez les Ch'tis. Bon tant pis, on a ressorti la PlayStation et on a appuyé sur Play. Thomas.
Ouais, attends, laisse le morceau un peu.
Je vais baisser les basses surtout parce que je sature complet.
Alors, nous parlons du retour des frères Wachowski.
Ouais. C'est forcément génial, c'est trop génial ce qu'ils font, c'est forcément génial, c'est forcément génial.
Alors là, quand tu dis ça, ça veut dire que tu t'attends à ce que je dise non. Mais en fait, non, je vais pas dire non. Speed Racer avec Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Suzanne Sarandon, Matthew Fox, ouais. La famille Racer, oula, c'est écrit, attends, c'est écrit petit, je me rapproche du papier. La famille Racer a offert plusieurs champions à la course automobile après son grand frère Rex, décédé lors d'un accident dans une caverne maudite. Le jeune Speed Racer prend le relais. N'ayant toujours vécu que pour piloter et refusant tout compromis avec l'immonde Royalton, il tente de lutter contre les magouilles pourrissant ce sport et roule à bord de sa Mach 5 sur les traces de son frère jusqu'au mythique Grand Prix.
Et pour... Il existe Michel Vaillant.
Mais pour cela, il devra s'associer avec un ancien rival, le mystérieux Racer X. Alors oui, toi, le fan de Wipeout, toi qui as aimé Cars et qui ne supporte pas de voir le bout du cockpit de Driven avec Stallone, ou qui a pleuré devant Michel Vaillant, justement, eh bien, ce film est fait pour toi ou pas. Alors, il faut pas être allergique au côté film pour enfants à partir de 6 ans, parce que c'est bourré de trucs pour enfants, minimum 6 ans. Alors en particulier, un personnage assez énervant, on va dire, qui s'appelle Spritle, c'est le petit gamin tout rond qui est obsédé par les bonbons et son chimpanzé Jim Jim. Alors là, ça te ferait passer Jar Jar Binks pour du Godard. Hein. Alors, faut pas s'attacher à ça, avec Sabrina, on se regardait des... Oh non. Bon, voilà, bon, alors ça c'est le côté négatif du film. Hein. Alors les couleurs sont flashy, t'as l'impression que c'est les décors ont été faits à base de fraises Tagada. Bon, c'est le Tim Burton, Charlie la chocolaterie un peu. Hein. Bon, si t'es allergique à ça, faut pas aller voir le film, c'est clair. De toute façon, la bande-annonce est suffisamment révélatrice pour te donner envie ou pas d'aller voir le film. Alors ce qu'il faut retenir par contre, c'est un sommet d'inventivité visuelle hors norme, hein, de toute façon. On connaît un peu les penchants des frères Wachowski pour un côté un peu très carré de la mise en scène au niveau aussi, il faut que ça aille à tout berzing, voilà. Alors, si vous aviez aimé les passages de transition dans le Hulk d'Ang Lee avec des transitions se faisant sur des silhouettes de plantes ou des objets de décor qui...
Ouais, les mises en abîme des éléments.
Voilà. Voilà, bon là c'est pareil, donc il y a des scènes de discussion des fois qui sont tournées avec une caméra panoramique qui tourne autour des acteurs et ces acteurs sont filmés sur fond bleu et ce sont leurs silhouettes qui font les jonctions entre plusieurs plans et c'est bourré d'inventivité comme ça. Alors, pour vous donner une idée, à un moment donné, il y a Royalton, c'est un espèce de magna de la course, un gars pourri de chez pourri qui essaie de faire visiter ses installations à la famille Racer. Et à un moment donné, il dit, ici, on prend soin des pilotes, on les entraîne aux conditions les plus dures. Alors, à un moment donné, t'as un pilote dans la banquise recréée dans une espèce de bulle et t'as des pingouins qui font la jonction entre les plans. Et qu'est-ce qu'ils font là, ces pingouins? À un moment donné, il y a des piranhas qui veulent choper un bras d'un coureur qui a pas voulu se faire acheter par Royalton. Les piranhas, c'est les piranhas en 3D cartoon. Alors, il y a beaucoup d'humour cartoon dedans et ça y va à fond les manettes. Alors, encore une fois, il faut s'attendre à ça avant d'y aller. Le point principal du film, est-ce que les scènes de course valent le détour? Eh ben, moi je dis oui. Si vous aviez été un peu échaudé par Star Wars épisode 1 avec la course de pod qui, franchement, était un peu molle du genou, alors là, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vois dans la bande-annonce que c'est y a rien de réel dans les courses, tu dis oh là là, parce que le film dure 2h10 quand même. Hein. Alors tu dis ouh, ça va sur 2h là, ça va commencer à faire un peu overdose. Est-ce que la sensation de vitesse va être bien rendue? Parce que bon, les films de course modernes aujourd'hui c'est Driven, hein, tu dis oui, c'est de l'effet spécial, c'est pas les films avec Tom Cruise, voilà. Bon, et t'avais pas de vibration, t'as pas de nervosité, là c'est l'inverse, t'as la nervosité malgré le fait que tous les décors soient en virtuel et tout. Franchement, tu prends ta claque, t'es scotché à ton siège, tu penses toute ta vie t'as rêvé d'une adaptation au cinéma de Wipeout. Bon, ben t'oublies, c'est fait, voilà. C'est pas avec des vaisseaux de Wipeout, ils volent pas, mais c'est lui-même à Kaby, c'est nerveux, c'est graphique, c'est super speed, c'est voilà, c'est. Enfin, moi, c'est ce que j'attendais d'un film de course avec des un peu futuristes.
Oui, pas un Michel Vaillant au ralenti, quoi.
Oui, bah en plus, Le principal défaut des films de course récents, c'était que Stallone, tu voulais qu'il gagne la course. C'est juste que c'est un second pilote appelé dernière minute pour seconder le petit jeune qui commence à prendre la grosse tête. Donc forcément Stallone, il peut pas gagner le championnat parce qu'il est arrivé en moment donné. Donc t'es un peu frustré. Alors Michel Vaillant, si je vais vous spoiler le film, donc à la fin il y a Michel Vaillant qui est obligé à un moment donné, il est obligé de courir pour l'adverse parce qu'ils ont capturé son papa. Il à un moment donné, tu sais même pas que c'est lui qui gagne parce que tu penses que c'est son copain, et alors en fait tu vibres même pas du tout, puisqu'en plus à la fin il y a la voiture qui fait pop, elle a plein d'accidents, donc tu t'as pas de yeah, là t'as ça dans Speed Racer. Alors voilà, je finirai aussi par juste une petite observation, c'est que en fait c'est vachement facile de charger des films comme ça, parce que tu te dis les frères Wachowski nous ont mis plein la gueule avec Matrix, à tout le monde qui adore tout le monde adore le premier, dit oui les deux derniers c'était vraiment du flan avec des dialogues un peu ineptes et tout, c'est facile de tirer sur les Wachowski, ils ont aussi produit V pour Vendetta, c'est les mecs qui se prennent pas pour de la merde, tu vois. Après Speed Racer, ils essaient de ratisser large pour les mangeurs de popcorn, sauf que c'est plus compliqué que ça, tu vois que derrière t'as des grosses références, encore une fois pour leur amour pour le manga, puisqu'à un moment donné il y a
c'est un dessin animé des années 70,
exactement. Il y a John Goodman, à un moment donné c'est le sosie de Mario parce qu'il est moustachu, il est en salopette bleue avec son t-shirt rouge, c'est des Mario, voilà. Et moi j'ai une petite tendresse pour les films comme ça qui sont assez audacieux et qui ont pas peur de se prendre un gros bide, genre Alexandre d'Oliver Stone ou La jeune fille de l'eau de Shyamalan. C'est des films qui sont conspués par tout le monde en disant mais c'est quoi ces films, c'est n'importe quoi. C'est la même chose, c'est un film bourré de parti pris, tu aimes ou tu détestes, mais au moins en tout cas moi j'aime bien pas savoir si j'aime ou je déteste justement les films qui sont radicaux. Ça fait un peu bizarre de parler d'un film radical pour des gamins, mais là franchement c'est un film qui vaut le détour. Donc Speed Racer, qui est sorti il y a pas longtemps, des frères Wachowski, avec toujours l'excellent Emile Hirsch. Là il est beaucoup moins charismatique que dans Into the Wild, faut s'y attendre. John Goodman, excellent. Christina Ricci qui joue la pimbèche fille de cartoon dessin animé, parfaite. Suzanne Sarandon qui fait la touche d'humanité un peu mature du film, qui est géniale. Matthew Fox, égal à lui-même. Il faut savoir que le rôle avait été refusé par Keanu Reeves à la base. C'est interchangeable, tu vois. un film qui vaut pour ses courses et tout.
Oui, parce que pour ce qui vaut, 75 millions de dollars de budget au tournage.
Qui est même pas
15 millions de résultats aux États-Unis.
Bide énorme, ouais. Mais c'est dommage. C'est un film à voir quand même. Qu'est-ce que ça peut donner en DVD? Joel Silver qui va prendre la parole à tout bout de champ. Ouais, c'est trop génial, regardez. C'est un film familial, tout ça. Les Franchowski, ils sont trop forts. Et puis c'est trop bien de bosser avec eux. Oh non.
Ça fait pratiquement une heure que l'on est à l'antenne, puisqu'il est bientôt 13h sur l'horloge atomique de la radio, 12h58. Et il y a exactement 2 heures, on a eu une news qui est tombée sur nos téléscripteurs. À savoir que Violent Femmes a fait un cover de Niall Barclay, à savoir Crazy. Le single sort le 25 juin, mais on peut déjà le préécouter sur le net et dans le supplément week-end. Ne dites pas merci. My mind, there was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. When you're out there without care, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy?
soul.
Stop.
You think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. To lose their lives out on a limb. All I remember is thinking, I wanna be like them. I wanna be like them. Ever since I was little, ever since I was little, it looked like fun. It's no coincidence I've come.
Le Crazy de Neil Barclay, repris par Violent Flames. Normalement, donc, le single sort le 25 dans les bacs américains. Il est dispo en pré-écoute sur le net depuis 2 heures. Et donc, on l'a pompé à la volée avant de vous le passer. Oui, je sais, c'est pas beau, mais on s'en fout, c'est la fin de la musique. Allez, du sport. Ne dis pas que c'est la fête à la saucisse, s'il te plaît.
Non, la fête de la musique, on va parler un petit peu plus tard, mais là, en ouvrant la dépêche aujourd'hui et tout, que je me suis dit, tiens, ben voilà l'angle d'attaque de ma rubrique.
Oh non !
L'événement de la dépêche aujourd'hui.
Le combat des chaînes. Ouais.
Avec plein de nouvelles qu'on sait déjà, hein, mais il y a quand même le
classement. El Marqueto, il est vraiment PPDA, il est débarqué TF1.
Il y a le classement justement des chaînes les plus regardées. Alors en ce qui concerne les chaînes de la TNT, c'est TMC qui vient en tête.
Ouais, ils se battent avec W9 hein, en ce moment.
Oui, enfin bon, 2,1% pour TMC, 1,8% pour W9 en deuxième position. Et la troisième, c'est...
La chaîne parlementaire.
No Life.
C'est Gulli, la chaîne pour enfants, donc en troisième position. Et alors, en ce qui concerne les moins bonnes audiences, il y a Virgin 17.
Le rebranding n'a pas marché.
Avec 0,5%. Il y a également.
Pourtant, ils ont une émission racoleuse, je comprends pas.
Non. Mais alors, et en plus, les deux plus mauvaises, en fait, sont les deux chaînes d'infos. BFM TV et iTélé avec 0,4 et 0,3% de part d'écoute. Bon là, on a compris, hein. On a compris ce qu'ils font les gens devant leur télé, quoi. Il y a également, et ça on en parle depuis pas mal de semaines et tout, ça a même fait les gros titres et tout, c'est l'éviction de PPD, oh là là, les boules et tout, hein. Bon, remplacé par Laurence Ferrari, là on dit pas non, hein. On est d'accord, hein. Y a pas de problème. Et son ex, qu'est-ce qu'il fout son ex? Il se retrouvait relégué à faire des deuxièmes parties de soirée sur 13ème rue ou des espèces de thématiques pour une soirée sur 13ème rue. Thomas Hugues, il est pressenti pour l'instant. Hein. C'est-à-dire que le mercato est toujours ouvert, hein. Il n'y a pas de problème. Pour reprendre la présentation de la matinale de Canal+, à la place de Bruce Toussaint, qui est donc en lieu et place pour l'instant tous les matins sur Canal, parce que Bruce Toussaint va remplacer Samuel Etienne, qui lui...
Il est génial, Samuel Etienne.
Qui fait l'édition spéciale de Canal, parce que...
Il veut revenir à l'actu.
Les pépettes, tu vois.
Il a dit dans une interview qu'il préférait pas. C'est lui ?
Présentation du soir 3, mon gars, c'est pas le même salaire, tu vois.
Putain.
Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ?
Ça bouge.
Ça bouge. Et alors là, le truc qui m'a tué... je le dirai pas parce que bon, c'est trop. C'est Julien Courbet qu'on aimait bien, nous, le vendredi soir en troisième partie de soirée. Comme ça, t'as pas besoin de regarder, t'en as rien à foutre.
T'as pas vu
Julien Courbet hier soir. Oh bah non, je me suis endormi et tout. Quoi.
Tu sais que t'as une chaîne en moins, regardez, voilà.
Ouais. Et là, manque de bol, il va passer sur France 2. Et en plus, là, il va être visible par un max de monde. En access prime time à la place de l'émission de Ruquier, hein, puisque Ruquier arrête, quoi. Donc, en access, hein, de 7 à 8, on va voir Julien Courbet qui va décliner ce qui était déjà une rubrique dans Sans aucun doute et qui est devenu une magazine mensuel de presse papier, Stop Arnaque. Ouais.
Je comprends pas. Trop en cool. plus, il va garder son magazine derrière.
Trop cool.
Voilà, ah trop bah cool. Tu veux mon avis ?
Il est temps pour lui que cela cesse.
Tout à fait, tout à fait. Sinon, il y a également Marie Drucker hein, qui va passer de France 3 à France 2. Ça, c'est pas tellement grave. Hein. De toute façon, elle reste sur le consortium public. Anne-Sophie Lapix,
elle remplace Laurence Ferrari.
Laurence Ferrari.
Hein, de blonde interchangeable.
Voilà, c'est ça, quoi. Hein. Et bon, bah, du coup, bah. Le cocu dans l'histoire, c'est quand même Marie Roselmack. Bon, cette fois, 7 à 8, il va se retrouver tout seul hein, pour l'instant. Quoi, parce que bon, pour l'instant, il y a également.
Il a le week-end.
Alors, il y a également un petit. Je sais même pas comment ça s'appelle ça. Comment t'appelles ça, toi?
Un graphique,
voilà, putain, oh là là. concernant les audiences des différentes chaînes de télé pour la semaine dernière, hein, c'est-à-dire du 9 au 15.
M6, alors, les matchs de la France.
Alors, TF1 en tête, bien sûr, avec 27,9 audience cumulée sur l'ensemble de la semaine. Hein, donc, 27,9 pour TF1, France 2 à 10,8. France 3. Au-dessus de France 2 avec 12,2%, Canal+ oh, Plus à 2,7%, bon c'est normal, ils sont encryptés, La 5 avec 5,3%, c'est pas mal, Arte 2,5% et M6 14,2%, ce qui en fait la deuxième chaîne la plus regardée hein, au niveau des chaînes hertziennes. Elle passe, M6 est passée devant France 2, France 3 et toute la...
Enfin j'ai cru comprendre que TF1 s'est quand même fait flinguer lors de la diffusion de je sais pas quel match où ils se sont fait doubler par France 3.
Ils se sont fait doubler effectivement, mais il faut aussi savoir que M6 a réalisé à l'occasion du match France-Italie qu'elle diffusait eh bien son record historique avec plus de 14 millions de téléspectateurs devant M6 à l'occasion de ce match.
Grand Dieu, il y a autre chose que le
boulot. Ils ont explosé le record.
Si on s'était bien passé de Thierry Roland et Franck Leboeuf, ça aurait été bien.
Ah ouais, ça aurait été pas mal du tout. Remarque les remplaçants de Roland Leboeuf, c'est pareil. Hein.
Mais je suis désolé.
Ferreri m'indispose comme c'est pas permis. Quoi. Bon,
j'ai compris qu'on refait le match.
Il y a que lui qui s'est joué au foot, tu vois. Il y a que lui qui savait taquiner la chic, hein, régaler la chic. Hein. Dans le temps, quand il jouait au Auxerre, à Marseille, je sais pas
les
où.
Enfants,
et à Bordeaux.
Les enfants, il y a le deuxième canal son, hein. Il y a Radio Campus.
Ouais, non,
fait la pub pour les concurrents. Faut signaler quand même que Sportas, ça déchire tout.
Ouais, sinon, tant qu'on reste aux commentaires sportifs, moi j'adore Wenger. Le mec monocorde qui dit 2-3 trucs dans le match, mais à chaque fois qu'il la place, c'est. Ce qu'il dit, c'est pas du flan, quoi.
Ouais, enfin, il est quand même. Il a quand même une optique très. Très dirigée, quoi, on va dire. Hein. Ok, quoi. On sent que c'est le manager à l'anglaise. Et il a ses trucs, il va les appliquer jusqu'au bout. Je crèverai avec mes idées, quoi. Il y a pas de problème. Et bon, bah comme les autres, le laisse causer, quoi, systématiquement, en disant bon, bah ok, c'est lui le consultant, quoi. On va dire, ok, quoi. C'est parole d'évangile, quoi, pratiquement, quoi. Alors que bon, de temps en temps, bon, faut quand même reconnaître qu'il a pas tout à fait raison. Non plus, le père Wenger. Hein. Ben, tu vois, pour une fois, je défends pas les Alsaciens.
T'es bien.
Hein Par contre, l'accent, il l'a pas perdu, tu vois. Hein. C'est pas le fait de passer, je sais pas combien d'années en Angleterre, hein, tu perds pas cet accent. impossible. On parle de fête de la musique à présent. Eh oui, c'est la fête de la musique aujourd'hui. Alors, je suis allé chercher sur mon programme tout ce qui avait trait à propos de la musique et de la fête de la musique en général. Aujourd'hui, hein, parce que bon bah c'est aujourd'hui. Alors,
la loi Hadopi, internet et cadenassage.
Non. On commence par TF1. Alors TF1, ils ont décidé de pas faire de fête de la musique, tout simplement. Allez vous faire foutre.
Allez, on va faire le top 100 des 100 meilleurs classements.
Il y a quand même de la musique. Ce Non, parce que bon, il y a match. Ils savaient pas trop, il y avait match et tout, mais comme ce soir c'est M6, donc eux ils vont diffuser des vieux épisodes de Preuve à l'appui, et puis après, des séries ils en ont en stock, hein, y a pas de problème. Mais par contre, à 1h45 du matin, c'est-à-dire après le deuxième épisode de New York Police Judiciaire, 1h45 du mat, concert pour Laurette. Ah ouais! Alors là, on va m'expliquer comment ils font pour leur don d'ubiquité, les différents artistes, parce que tu vas pouvoir les voir soit sur TF1, soit sur d'autres chaînes. Pratiquement en même temps, quoi, tu vois, quoi. Ou alors, ils ont un jet privé très très rapide, quoi, quand même, pour rejoindre les différents lieux. Alors, concert pour Laurette avec Raphaël, M. Pokora, Bébé Brune, Victoria. Tu connais Victoria?
Non.
Ah, putain, il connaît pas Victoria.
C'est qui Victoria?
Aïe.
C'est la gagnante de.
C'est la remplaçante, on va dire, de Anastasia. Tu te rappelles, Anastasia, il y a quelques années, là, celle qui avait une. Ouais. Et elle, c'est pareil. Sauf qu'elle est pas new-yorkaise, elle vient d'un pays nordique, on va dire, je crois du Danemark, quoi, un truc comme ça et tout, quoi. Belle cartonne, hein, quand même, quoi. Et à Sheriff Aluna également, San Severino et David Vendetta, pas l'autre. Vendetta, attention.
Oh, ça, sur France 2.
Alors, sur France 2, là, on nous l'a montré, surmontré. Alors, si vous regardez un petit peu France 2, vous n'y avez pas coupé à la bande-annonce, hein. C'est du live. De toute façon, c'est présenté par Oli Mémine en direct de l'hippodrome d'Auteuil. Donc, ils attendent au niveau du public plus de 100 000 personnes. Ouais, ça les contient, hein, c'est un hippodrome, c'est énorme, quoi. Avec,
ça les change du Champ de Mars.
Alors, il y en a une tapée, hein, parce que ça dure presque 4 heures, ce truc. Hein, c'est jusqu'à minuit 30, quoi, avec Enrique. Ah, Enrique, j'ai plus mon grain de beauté. Deux filles, David Guetta, ce coup-là, hein, ouais. C'est normal. Cabrel, Christophe Willem, Sheriff Falouna, tu vois, ah ouais, eh ouais, eh ouais. Même, Bébé Brune aussi, ouais, les mêmes, ouais, ouais, pas de problème. Mickey Green, etc. Des surprises, tout ce que tu veux. France 2 ce soir, donc la fête de la musique. Et à 0h30, par contre, pour ceux qui l'avaient loupé lors de sa première diffusion, la rediffusion de cet excellent conte musical qu'est Le Soldat Rose. Ah, sur France 3, bah pareil, hein, on fait l'impasse sur la fête de la musique. Par contre, quelque chose à suivre quand même, hein, pour ceux qui s'imaginent que Carmina Burana, ça n'est que tu sais, les histoires extraordinaires de Pierre Belmar à la radio et tout. Eh bien non, pas du tout. Non. Hein, si tu écoutes le disque en entier, il y a vraiment beaucoup de parties. Hein. Bon, je pourrais raconter l'histoire, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Alors là, ben séance de rattrapage sur France 3, 3h20 du matin quand même. Carmina Burana dans la ville. Par l'orchestre de l'Académie de musique dirigé par Jean-François Sarkos. Canal Plus Cinéma vous propose une soirée assez intéressante au niveau documentaires musicaux. Le premier à 23h30 s'appelle Gypsy Caravan de Jasmine Delal en 2006, qui a suivi la tournée qu'ont fait des musiciens tziganes venant de différents endroits. C'est-à-dire que bon bah les tziganes, il y a ceux qui sont plutôt du côté du sud de l'Espagne, il y a ceux qui viennent plutôt de la Roumanie. Enfin, donc ça fait plein d'influences musicales qui sont complètement différentes. Et donc dans ce documentaire Gypsy Caravan, eh bien on voit 5 groupes différents de musique tzigane, gypsy quoi, comme vous voulez, qui vont faire une tournée aux États-Unis. Et donc ce documentaire suit cette tournée et voit un petit peu l'accueil que peuvent avoir les autochtones, les ricains donc, à propos de cette musique de tzigane. Il faut dire que bon, les ricains n'ont pas les mêmes a priori.
Ils ont les mexicains pour ça.
Ouais, non, justement, par rapport aux tziganes, ils n'ont pas les mêmes a priori que par exemple les Européens pourraient avoir. Hein, mais bon, ça s'explique un petit peu aussi par le fait qu'il y a une quinzaine d'années, il y a un groupe qui est venu tout bouleverser, hein, qui d'ailleurs continue sa carrière, on n'en entend plus parler, mais continue leur carrière et gagne leur pognon à fond les manettes aux États-Unis, c'est les Gypsy Kings, bien sûr. Alors, après Gypsy Caravan à 23h30, Made in Jamaica à 1h20, le film documentaire qui était passé dans les salles à Toulouse, hein, de Jérôme Laperrouza. Alors où La Pérouza va en Jamaïque rencontrer les vieux, hein, les vieux musiciens, enfin ceux qui sont encore vivants bien sûr, hein, mais vraiment les vieux papis, hein, qui ont commencé à se démarquer en faisant une musique un peu nouvelle, hein, qu'on a appelée par la suite reggae. Okay. Jérôme La Pérouza, qui est d'ailleurs réalisateur de notre documentaire qui a marqué toute une génération, la mienne. Continental Circus, le documentaire sur la moto, sur le Continental Circus. On continue à appeler le championnat du monde de vitesse le Continental Circus. Et ça suivait justement les déboires d'un pilote qui, à l'époque, hein, c'était dans les années 70, avec la musique de gong quand même, qui faisait le lien. Et par de temps en temps, on voyait Agostino, par exemple, Giacomo, le plus grand, le meilleur du monde. Donc ça c'est dans Made in Jamaica, pas les motos hein, mais les Jamaïcains, de Jérôme Laperrouza, de film de 2006. Et à 3h05, Block Party, le Gondry de 2005, hein, qui était déjà passé sur Canal en prime time, mais là qui est diffusé bien en troisième partie de documentaire à 3h05 du matin. Sur Arte ce soir, du direct logique, normal, hein, avec ni plus ni moins que Rigoletto, l'opéra de Verdi, hein, depuis l'opéra de Brême en direct, et c'est l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde. Alors Kapelle, en allemand, ça veut pas dire la chapelle, ça veut dire l'orchestre. Voilà, vous avez appris quelque chose. Et
merci.
Cet orchestre est dirigé par Fabio Luizzi. Alors Rigoletto, on connaît un petit peu, hein, c'est cette espèce de bouffon cynique, superstitieux, et qui décide de soustraire sa fille à l'appétit de son maître, qui est le duc de Mantoue, hein, qui l'a perçu dans une église et qui sait pas qui c'est. Ah, il me la faut celle-là, il me la faut. Et Rigoletto, bon, ok, il va tout faire pour que ça ne se passe pas. Voilà un petit peu le pitch, comme dirait Thierry Ardisson, de Rigoletto, mais c'est bien plus que ça. Hein. Donc c'est ce soir en direct sur Arte, suivi à 23h10 de Gimme Shelter. Ils avaient ça dans leur fond, alors donc ils l'ont passé lors du Summer of Love l'été dernier. Ben allez, on le remet, y a pas de problème. L'excellent documentaire sur le concert des Rolling Stones et autres à Altamont, où il y a eu ce fameux meurtre. Devant la scène et tout.
Non, c'est juste une baston, bavure. Une bavure.
Baston avec une bavure. Les Angels et tout ça. Bon, enfin, il y a plus que ça.
Serait les flics, on parlerait de bavure.
Parce que bon, bah, lors de la précédente diffusion, c'était l'extrait qui avait été choisi pour être monté au zapping. Ouais, normal et tout. Ouais, normal. Alors qu'il y a plein d'autres bons moments dans ce concert des Stones à Altamont. Ensuite, bah, toujours les Rolling Stones à 0h40 avec une émission qu'ils avaient développée sur la BBC qui a duré un an. Hein, c'était plus ou moins épisodique, hein, c'était pas un horaire fixe. C'est The Rock'n'Roll Circus où ils invitaient tous leurs potes et tout. Ouais, venez jouer, on fait la fête, on se déguise, on s'amuse et tout. C'est à la télé, cool, pas de problème. Et là, dans ce Rock'n'Roll Circus à 0h40 sur Arte, qui date de 68, on pourra voir Jet Trottle, les Who, en pleine forme, de Dirty Mac, Eric Clapton et John Lennon. Et ça se termine à 1h45 par Jimmy Plays Monterey. Ah ouais, que du bonheur, hein. Jimmy, la fameuse scène où il fout le feu à sa guitare, tu sais quoi. Il a pris sa recharge de Zippo et tout, puis il fout le feu à sa guitare et tout. Et en fait, c'est une histoire assez longue, hein, parce que bon, il faut savoir que Jimi Hendrix avait eu une carrière assez longue en Angleterre, hein, s'est fait découvrir en Angleterre. Son manager était anglais, hein, Chas Chandler, ex-bassiste des Animals. Et il faut savoir que c'était de notoriété publique entre les musiciens que entre Jimi Hendrix et les Who, il fallait jamais passer après eux parce que c'était pas la peine. T'étais mort. Le public il suivait plus. Il était largué. Il te suivait plus quoi. De toute façon quoi. Et il arrivait un moment où justement il s'arrangeait toujours pour que il n'y ait jamais les deux ensemble dans le même concert ou dans le même festival, le Jimi Hendrix et les Who, parce que tous les deux en concert c'était énergie à fond les manettes et tout. Et là bon bah à Monterey, désolé, à la programmation c'est comme ça. Donc les Who ils font leur ils passent avant Jimi Hendrix, alors ils avaient un peu les boules et tout quoi. Et ils se sont dit bon bah ok, on va tout péter comme ils faisaient d'habitude, hein, on pète tout, le matos, la batterie, les guitares fracassées, les amplis, tout pété. Ils se sont dit là on va foutre le why à fond, Jimmy pourra. Et bon, ils étaient potes, hein, ils étaient pas adversaires en plus, ils étaient bien potes.
Mais c'est du chambrage quoi.
Et Jimmy, bon bah ok, le seul truc qu'il a trouvé après quoi, bon bah ok quoi, vous avez tout pété et tout, y a pas de problème et tout, je vais arriver à faire quelque chose de mieux et tout. Et il nous sort ce moment magique et tout, hein, qui a illustré tant de chambres avec le poster de Jimmy à genoux comme ça en train de foutre le feu à sa guitare. Enfin bref, voilà un petit peu la petite histoire de Jimmy Plays Monterey. Mais ça n'en reste pas moins un super concert. 67, donc c'est sur Arte à 1h45 du mat. Ça dure 1h15 quand même, hein, le set intégral pratiquement de Jimi Hendrix à Monterey. À la fête de la musique, toujours sur France 4 à 20h40. Là, ça peut être intéressant pour les gens qui connaissaient pas cette période, qui étaient un peu plus jeunes et tout, qui vont se rappeler qu'Antoine Decaune était aussi jeune à un moment donné, car il nous avait fait plusieurs émissions. Plusieurs émissions assez intéressantes, dont Rapido.
Ah oui, Rapline, c'est l'autre, c'est Olivier Cachin.
Qui était en fait une émission diffusée en Angleterre par la BBC. Hein, et
c'était Channel 4.
Channel 4, et dans laquelle et ben, il dénichait quelques tendances comme ça. Une émission courte, hein, d'une demi-heure, quoi, et donc avec 4 ou 5 rubriques, un petit peu à l'instar de Trax d'ailleurs, hein, sur Arte, il développait pas mal de sujets qui n'étaient pas vraiment traités dans la musique, mais pas que dans la musique. Et de plus, Antoine Decaune parlait anglais avec l'accent vraiment français et tout. C'était vraiment c'était une vraie vedette en Angleterre, hein, Antoine Decaune, parce que justement le French accent, tu vois, ça ouais, sexy quoi, tu vois, pas de problème. Et donc là, on nous propose sur France 4 les années Rapido. Donc condensé quoi de ce qu'a été ces 5 années durant lesquels, eh bien, on a pu suivre Rapido qui a été repris après par Canal+, quoi. C'est Canal+ qui après les a rediffusés, mais pas en intégralité et pas l'ensemble de ces Rapido.
Je crois qu'ils avaient refait les intros d'ailleurs, du coup.
Alors, au départ, c'était fait par Antoine Decaune et Peter Stuart, un réalisateur fétiche de Antoine Decaune. Et là, ces années Rapido sur France 4, ce soir à 20h40, seront présentées par Antoine et Emma Decaune. Sur Paris Première, on nous propose, bon là pareil, ils ont fait un petit peu l'impasse, mais on nous propose quand même à 1h15 du matin un opéra en plein air, Les Contes d'Offenbach. Ça a été tourné la semaine dernière, le 14 juin 2008, dans le Jardin du Sénat, la mise en scène de Julie Depardieu et de Stéphane Druet. Sur W9, Thomas, ça va te ramener un petit peu vers Annecy. C'est comme tous les samedis, les Simpsons sur W9, mais là c'est les Simpsons Faites la musique, avec des épisodes spécial musique. Ouais. Le Quatuor d'Homère, le Cocktail d'Enfer, L'Amour au Curry, Vive les éboueurs, j'en passe, ça va de 20h40 jusqu'à 23h sur W9 ce soir, les Simpsons Faites la musique. Ah, et alors ? Ah, un Larsen sauvage qui a fait bondir
Xavier et qui Xavier, a pété les tympans.
Il en a jeté son casque de rage et de dégoût. On continue alors avec sur TV5.
Mais j'ai carrément les oreilles explosées. L'écouteur a pris cher là.
Oui, mais même nous, on pouvait entendre avec on a le casque sur les oreilles avec le son qui nous rentre dans les oreilles. Mais on entend quand même le petit qui est passé. T'en fais pas. Hein. Peut-être que c'est même passé au micro.
Avec de la chance.
Ouais. Alors, on continue la fête de la musique sur TV5 ce soir, 23h50, deux documentaires concernant des vieux qui sont disparus depuis longtemps et tout, quoi, des gens que vous n'avez pas connus, sauf que maintenant, les jeunes de la chanson française, ils ne jurent que par ces gens-là, hein. C'est eux, les maîtres et tout, pas de problème et tout. Tout d'abord, à 23h50, Georges Brassens, Je suis de la mauvaise herbe, un documentaire qui date de 2001. Et, à 1h10, Léo Ferré, Les témoins de sa vie. Sur AB1, on a décidé de faire décalage avec la diffusion des Brit Awards 2008 pour savoir tout des nouvelles tendances musicales.
Attention, c'est assez punk, hein, la présentation des Brit Awards.
Ouais. Alors il faut savoir
depuis que KLF avait repris leur tube Free I Am Eternal version trash indus metal, tout le monde a dit bon, on va faire beaucoup plus punk qu'eux. Et chaque année, c'est de plus en plus allumé. Si je me trompe, c'est un animateur de Radio One qui présente j'ai oublié son nom.
Je peux pas te le dire. En tout cas, il faut savoir
qu'on le voit aussi sur MTV2. J'ai oublié.
En tout cas, il faut savoir que au niveau des nominations, c'est Mika qui est en tête avec Léona.
C'est Lane qui le présente.
Léona Lewis, également le retour de Take That Way. Ronan Keating, il est de retour. Trop cool. Mais il en manque un. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. On le comprend.
Non, je veux pas redevenir ridicule.
On parlait de Jimi Hendrix avant à Monterey. Et là, eh bien, Vivolta vous propose également Jimi Hendrix à 20h45 ce soir, mais à l'île de Wight en 70. Et là, c'est assez intéressant. Bon, pour les gens qui ont des tendances nécrophiles, parce qu'il faut savoir que un peu moins d'un mois plus tard, Jimi Hendrix crevait entre guillemets d'une overdose. C'est l'occasion de voir le concert qu'il a pu délivrer à l'île de Wight, 1h40 quand même. Là, c'était quand même très très chaud, hein, vraiment quoi. C'est sur Vivolta ce soir à 20h45. Sinon, sur la chaîne Histoire à 20h50, Blue Note, A History of Modern Jazz. Blue Note, c'est
le label mythique.
Un des labels mythiques de jazz. Mais
surtout, c'est un label qui est resté très ouvert aux musiques, puisque quand il y a eu le fameux morceau de US Free, quand ils sont venus les voir en disant « Oui, on aimerait faire un mashup en rap avec plein de titres à vous, est-ce qu'on peut avoir les droits ?» Et les mecs de Blue Note ont dit « Non, sauf si vous signez chez nous. »
Donc voilà. Ils ont signé chez eux. Mais il faut dire que Blue Note était au départ un label de jazz pur et dur, on va dire.
Oui,
hein.
Black,
mais très tôt, c'est ouvert aux black music et aux musiques un petit peu de traverse. Hein, donc, respect quand même. Donc, c'est ce soir sur 20h50, le label fondé par Alfred Lyon et Francis Wolf. Sur Virgin 17 ce soir à 20h30, Elton John 60e anniversary à New York. Désolé, il va avoir 61 ans. Donc c'était l'année dernière. Mais ça passe quand même ce soir sur Virgin 17. Hein. Sur MTV Pulse, là c'est du tout jeune, du tout récent. Hein. C'est Rem en live qui vient de sortir un excellent album. Rem est en live à Milan cette année, donc sur MTV Pulse ce soir, mais à 19h par contre. Et voilà, bah, ce sera tout pour la fête de la musique.
Et 13h24, tu crois que tu vas faire la suite?
Ah ouais, ouais, j'ai trois pages là. Alors...
Oh là non, faut que tu parles du foot, il faut que tu parles du foot. Hein.
Ouais, ouais, mais un tout petit peu quoi.
Alors, juste une question du sport.
Ouais.
Le symbole des Trekkies, tu sais ce que ça veut dire en signe, en langage des signes américains?
Non.
Ça veut dire je t'aime.
Ah bah voilà.
Et tu sais qu'aux États-Unis, il y a une jurisprudence qui est passée. Comme quoi finalement le mariage n'est pas forcément entre un homme et une femme, mais peut être entre deux hommes consentants. Et figure-toi que
pas
l'acteur,
dans tous les états.
Pas dans tout, c'est la Cour suprême. Donc théoriquement c'est fédéral.
Ouais mais
il y a possibilité pour l'instant c'est surtout en Californie que c'est accepté et il se trouve que donc Sulu s'est marié. George Takei s'est marié avec celui qui était, je veux dire, un peu son partenaire depuis 25 ans, Brad Altman. C'était mardi dernier à Los Angeles. Et ce qui est très amusant, ce qui est passé, ce qu'évidemment, dans le Daily Show, ils ont pas pu s'empêcher. Il y a 60 épisodes de la première série Star Trek. Le seul extrait que toutes les chaînes d'infos ont passé dans leurs 20 heures, le seul, c'est celui où George Takei fait une espèce de kung-fu, torse-poil, muscle luisant. C'est le seul qui sont passés. ça soit ABC ou CBS, et je vous parle pas de Fox News où là c'est carrément le Saltarlouze. Enfin bon.
Bah, allez, pour les gens qui aiment pas la musique et qui préfèrent les films, le cinéma quoi, tu vois.
Ouais.
Alors on va faire une sélection de films avec des couilles sévèrement burnées quoi.
Ah ouais.
Ah bah tu vois, là tu sais plus non.
Ouais.
Alors ce soir.
Baston.
Ce soir sur RTL9 à 20h45, William Friedkin en 2000, c'est l'enfer du devoir avec Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson, Guy Pearce, Ben Kingsley et Bruce Greenwood. Ah ouais, là.
Baston.
Sur Cinefix à 21h ce soir, Cyborg Cop 2 de Sam Firstenberg avec David Bradley. Ouais. David Bradley, Morgan Hunter et Jill Pierce.
Loupé du sport.
Et sur Pink TV à 0h à minuit, Black Training. Mais ça, c'est du X.
Ah oui, c'est burné.
Tendance un peu, gars. C'est burné, il y a
c'est
des
burné,
couilles.
C'est...
demain, à 20h50, Nomad. Et je sais que Thomas, tu nous avais compté il n'y a pas si longtemps, tu nous as fait une critique de film de Sergueï Bodrov, le dernier Bodrov sorti.
Oui, c'est Mongol.
Mongol, voilà. Et il faut savoir que, en 2005, avec, en compagnie d'Ivan Passer, eh bien, il avait tourné Nomad, qui est un petit peu une espèce de gladiator mongol, on va dire, avec Marc Dacascos.
Alors, ouais,
ça se pas. Non.
Qu'est-ce
non,
qu'il
non.
est allé foutre là-bas, lui?
Ah, Ça c'est sur Canal Plus Cinéma. Donc sur Ciné Frisson demain soir à 05h, Arc Porn de Molly, c'est du X. Mais Molly, c'est un réalisateur hongrois qui change un petit peu les formes.
Et maintenant tout au touche.
Dans ce film, si tu veux quoi, c'est basé sur le thème des couleurs quoi. Tu vois, différentes couleurs, donc différentes scènes et tout, avec des couleurs bien flashy quoi, genre.
J'ai eu peur que tu me dises.
Charlie à la chocolaterie. Tu vois.
D'accord.
Mais pas le même genre quoi.
J'ai eu peur que tu me dises basé sur une histoire vraie.
Et, mais par contre après à 1h45 après Hard Porn, Mad Max de George Miller donc.
Voilà, avec des couilles.
Ouais. Et c'est vraiment burné, bien sûr. Demain, sur Action, il y a également Intervention immédiate de Paul Lynch de 94. Alors, c'est un téléfilm que j'avais vu déjà sur 13e rue ou TF6. Enfin, bon, genre de chaînes qui sont habituées à diffuser ce genre de téléfilm. Et il faut avouer, alors quand on regarde la distribution, on se dit, ouais, ça va péter, c'est génial et tout. Et c'est vrai que il y a quelques petites longueurs dans le film. Il y a des choses qu'on a déjà vues 20 fois ailleurs, mais ça se laisse quand même regarder avec un certain plaisir. Faut être un peu pervers quand même, mais bon. Andrew Dice Clay dans le rôle principal, Ford Fairlane ou un des personnages secondaires dans Crime Story, la série.
D'accord.
De Michael Mann, Robert Davi, ouais. Shannon Tweed. Ah ouais, Shannon Tweed. Mais là, depuis, elle se les a refaire, donc c'est moins intéressant quoi. Et puis bon, elle commence quand même à accuser le poids des années. Hein. Et Roddy Piper. Et Nicolas Campbell, alors, et bon, c'est l'histoire de, alors complètement improbable, c'est une bande de terroristes qui prennent en otage tout le monde dans un building, alors qu'il y a un concours de beauté genre Miss Monde qui se déroule.
Oh, ça tombe mal,
terrible. c'est terrible. Mais c'est pas
très
mal
réalisé, mon sens.
Non, c'est pas mal, franchement, quoi, c'est pas mal. Quoi. Lundi sur Ciné Cinéma Star, 22h25, Les Anges de la Nuit de Joannou avec Sean Penn et Daris. Et sur la chaîne XXL, Croupe du Monde 98. Du regretté Alain Payet avec Anita Blonde, qui est brune, Olivier Del Rio, qui n'a pas de sein refait, Dolly Golden, alors elle, c'est carrément des trucs de 3 kilos, quoi.
Des melons.
2 x 3 kilos, quoi, tu vois.
En watermelon.
Et Fobéa, qui a pas duré longtemps dans le X, c'est dommage d'ailleurs. Mardi, toujours sur TPS Star à minuit, 2 doigts sur la gâchette. Alors celui-là,
qu'est-ce qu'il est naze, celui-là.
Ouais. Avec...
C'est un porno.
Mais non, Christophe Lambert et Mario Van Peebles. Ah là là, excellent film de Deran Sarafian qu'on retrouve maintenant au générique à la réalisation de. Dr House, ouais.
Ah bah du coup.
Pas de bol.
Non, mais comme quoi. Hein,
avec
vois,
cette scène inénarrable où.
la bouse mène à tout.
Il y en a plusieurs.
Où Van Peebles, le flic, ne doit pas laisser s'échapper Christophe Lambert et donc ils se tirent dans le genou chacun et ils ont chacun un bandage pour éviter qu'ils se fassent la malle avec le magot.
Ouais, non mais bon. Deux doigts sur la gâchette, quoi.
Et donc, cette fameuse aussi réplique de Marlon Van Peebles, à peine sorti du trou, faut que tu retournes au trou. Et il le retrouve avec une prostituée, je crois d'ailleurs. Bref.
Allez, mardi magnifique. Prochain, sur RTL9 à 20h45, l'honneur des Yakuza de Mink, avec Steven Seagal, Matthew Davis, Eddie George et William Atherton. Devine qui est le méchant ?
Steven
William
Seagal.
Atherton.
Bien sûr.
Oh, mais pourquoi c'est jamais lui ?
C'est journaliste de Die Hard.
Bah, William Atherton, voyons. Ouais. Dans tous les rôles qu'il a, généralement, quoi, c'est lui l'enfoiré de service. Quoi. C'est con pour lui, mais bon, voilà. Quoi. Mais
il devrait danser à la Flanders Company.
C'est tout à l'honneur de RTL9 de nous diffuser d'abord un Steven Seagal et ensuite son concurrent le plus immédiat, mort subite à 22h40, JCVD. Les Powers Boost. Ouais. Sinon, mardi prochain sur NT1, alors. Une petite curiosité, là c'est pas vraiment un film avec des couilles et tout quoi, mais bon, si quand même, il a des couilles quand même, le Poulpe, hein, de Guillaume Niclou, Jean-Pierre Laroussin, excellent, bon je l'aime pas trop moi dans ces espèces de Marseillades là, enfin bon, ça me regarde, hein, c'est tout quoi, mais enfin là, dans le Poulpe, rôle de composition, il est carrément excellent.
Il y a Clotilde Courau à poil.
Et oui, pour voir la future héritière de la couronne d'Italie, à poil.
Ouais, on la voit bien en plus. Hein.
Et ouais, à poil complet quoi.
Ouais.
Mais par contre, elle a pas de silicone.
Non,
vraiment pas. Hein.
C'est rigolo ça.
Ou alors elle s'est fait arnaquer.
L'héritière de la couronne d'Italie à poil dans un film qui met en scène un antifasciste.
Ah bah ouais. Bah, ouais
il doit en racheter.
Sur AB1, 20h45, Fugitive Mind de Fred Nolenray en 99 avec Michael Dudikoff. Ouais. Eric Drazin. Bon, le film est naze quoi, mais il y a Michael Dudikoff dedans quoi.
Bon, il manque plus que Chuck Norris maintenant.
Attends. Sur Pink TV à minuit,
c'est un concours.
Riding Hard, également un X, hein, donc interdit aux moins de 18 ans. Ce mercredi, Canal Plus Décalé vous propose à 2h15 du matin le journal du Hard suivi de la 2h35 de Casino No Limit avec Yasmine, avec Lillian Tiger. Ouais. Yasmine, bon, elle est refaite et tout. Maintenant, tu la vois même chez Deniso, quoi. Alors bon, laisse tomber, quoi. RTL9, mercredi prochain à 20h45. The Brave, la première réalisation de Johnny
Depp
avec Marlon Brando, Frédéric Forrest. Ouais. Sinon, mercredi prochain à 20h45 sur Sci-Fi, Kalidor, la légende d'établissement.
Avec Arnold.
Et avec également Brigitte Nielsen et Sandal Bergman. Sandal Bergman qui joue dans Conan, hein, la blonde.
Ah oui.
Oui, qu'on retrouve bien, dans Kalidor.
Elle
quoi,
est
tu
bien,
vois.
Là, ouais.
Grunt.
Et sur XXL, mercredi prochain à minuit, Petit cul et grande cochonne, et suivi à 1h30 de Une blonde, une brune, ma bite et mon couteau.
C'est du genre Rolin avec des noms pareils.
Ah, XXL.
Du Moki.
XXL, chaîne XXL. D'accord, t'as compris.
D'ailleurs, je pensais à Jean Rollin ce matin parce qu'ils ont encore passé le viol du vampire sur CDFX.
Il y a un vampire qui s'est violé.
Ouais, mais il le passe environ une fois tous les jours sur cette chaîne.
Ah, d'accord.
Alors, troisième page avec jeudi prochain sur TCM à 20h50, Les Rues de Feu. Alors, ça, c'est un Walter Hill qui est pas tellement connu. Hein, qui a fait un flop d'ailleurs, hein, il faut le dire, hein, de toute façon, quoi, parce que bon, bah, l'histoire est un petit peu abracadabrante, on va dire, hein, l'histoire de gang et tout, dans un quartier. Disons que Walter Hill, généralement, quoi, c'est plutôt assez les grands espaces, les paysages, les trucs, ça se passe toujours extérieur et tout. Voilà, ça se passe uniquement dans un quartier. Et c'est à moitié musical. Enfin, moitié, un tiers musical, on va dire, hein, parce qu'il y a des moments où ils chantent et tout.
T'avais dit pas de musique.
Oui, mais quand même, c'est les rues de feu, c'est Walter Hill, quoi. Avec Michael Paré, Diane Lane, Rick Moranis, qui pour une fois, joue pas dans un rôle comique, hein, et Amy Madigan. Sinon, jeudi prochain sur la chaîne Action, Sans issue de Richard Pépin. Et celui-là, il est pas mal, hein, franchement, quoi. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé de celui-là avec James Russo, un mec qui sort de tôle et tout, quoi.
Et tu me l'as passé d'ailleurs.
Qui se branche avec une nana, Teresa Russell, et il se rend compte que elle est un petit peu malmenée, quoi, par son protecteur, on va dire, qui est également son patron, joué par Steve Railsback. Et il va essayer de la dépêtrer de là, quoi, aidé en cela par Brad Dourif, qui pour une fois a un rôle vraiment cool, quoi. C'est-à-dire, il dure pas jusqu'à la fin du film, il lui arrive des pépins, mais là, il est décalé, d'accord, mais pour une fois, il est pas inquiétant, non, que dalle, c'est le pote de James Russo, donc le pote du héros. Donc, mais c'est à regarder quand même, hein, c'est un Richard Pépin de 2003. Il y a également sur Thalassa jeudi prochain à 20h45 sur Couf, le tigre des sept mers. Alors là, avec Gérard Barret, là vous connaissez pas Gérard Barret, mais c'est dommage.
Oh, c'est du vieux,
c'est... Gérard Barret, si, c'est... il jouait D'Artagnan dans les mousquetaires de Bernard Borderie.
Bah oui, exactement. Et Gérard Barret, quand même, il a fait plus de films de Cap et d'Épée que l'autre qu'on connaît vachement, quoi.
Jean Marais,
quoi. Il en a fait plus, hein, Gérard Barret. Quoi. Et surtout parce qu'il y a Antonella Lualdi. Waouh! C'était l'époque dans les années, fin des années 50, début des années 60, où les Italiens, on a oublié de parler de Dino Risi d'ailleurs, hein, qui est mort il y a une quinzaine de jours, hein, où les Italiens ils arrivaient à trouver des nanas bombastiques que tu en pouvais plus, Lorraine, Cardinal et toute la bande. Lualdi, Antonella de son prénom, en fait partie. Et donc, une fois qu'il les avait bien utilisés dans plusieurs films et tout, quoi, avec décolleté plongeant, tout le bordel, attends, on va te le faire passer et tout, à l'export, comme ça, tu vas voir. Mais il faut dire aussi que la plupart des films étaient des coproductions franco-italiennes, franco-espagnoles, italo-espagnoles, ça a mélangé dans tous les sens, pour diminuer les coûts, bien entendu. Alors, sur Couf, le tigre des sept mers, c'est jeudi prochain sur Thalassa à 20h45. Et sur Pink TV, jeudi prochain, qu'est-ce qu'il y a? A Night at Bruno's, à minuit toujours, hein, de toute façon, hein, sur Pink. Et on termine avec vendredi sur TPS Star à 22h50, vendredi prochain, Walker Texas Rangers, le téléfilm.
Il le fallait.
D'Aaron Norris, le fils, avec Chuck Norris et Cherry G. Wilson, qui est la blonde, hein, que tu vois, qu'à un moment il se marie, puis après elle crève, et puis un peu plus loin, elle est de nouveau là. Parce qu'en fait, tu sais,
elle
pas,
était pas crevée, en fait.
Elle était pas morte, quoi, en fait.
C'était sa sœur jumelle.
Ben ouais. dingue. Walker Texas Rangers, donc. Vendredi prochain également sur Ciné-Cinéma Frisson, le contrat de George Irwin avec Arnold. Arnold, il était pas content, là, et il l'a montré, quoi, tu vois, quoi. Parce que il faut pas s'attaquer à ses proches, non, quand même.
Ah oui, le contrat, c'est le. L'affiche un peu glauque, là.
Voilà,
je suis pas content, ouais.
Et avec Sam Wanamaker également sur Ciné-Cinéma Frisson, donc.
Ça devient dur de faire les émissions.
Sur TCM, vendredi prochain à 19h, alors New York 1997,
t'en avais déjà parlé la semaine dernière.
C'est comme ça, quoi, c'est multidiffusion sur TCM, suivi d'un autre film qui se passe à New York à 20h45, un shérif à New York, le Don Siegel avec Clint Eastwood, Don Strude et Lee G. Cobb.
Il y a combien de magasins de cette enseigne? Un seul. Elle n'est pas passée trois fois.
Sur la chaîne Action, vendredi prochain, à 21h, El Chuncho, un western de Damiano Damiani de 67 avec John Maria Volonté, Klaus Kinski et Lou Castel. Waouh! Sur Ciné Frisson, à vendredi prochain à 0h25, c'est du X. Jenna, Devil in Miss Jones de. Ça, c'est la version de Paul Thomas, c'est-à-dire la version de 2005, qui n'est pas la version originale, qui date quand même de la fin des années 70. Qui était nettement mieux, hein, on va dire, que cette espèce de remake et tout, quand on a capitalisé sur un des titres X qui a le mieux marché, quoi, avec il y a Gorge Profonde, il y a Devil in Miss Jones, Derrière la Porte Verte aussi, des films comme ça qui ont vraiment, ou Café Flèche, quoi, qui sont des films un peu zarbes, qui sont porno, mais quand même un peu zarbes, avec des ambiances un petit peu. Où les gens ils se sont dit, on fait pas que filmer du cul, on va mettre des trucs autour et tout, quoi. Mais le remake, quoi, c'est. C'est du X classique américain, donc pas trop intéressant. Par contre, sur XXL, on a droit à minuit à Nati à tout prix, suivi de à 1h20 de Phil Denis. Et sur Pink TV, Three Easy Pieces, toujours à minuit, donc toujours du film un petit peu couillu, quoi. Et ça ira pour ce soir.
C'était l'émission numéro 161 du supplément week-end en direct de la fête de la musique qui n'a le droit de commencer officiellement qu'à 18h. Et on n'a pas parlé de musique, mais on a plutôt fait le débrief de l'animation. D'ailleurs, Thomas, peux-tu faire le résumé pour tous ceux qui ont pris l'émission, le supplément week-end en cours de route aujourd'hui ?
Oui, nous avons eu un trekker qui se mariait, de la nécro-animatronique, une revue de presse du football en BD, des tortues ninja qui ne sont pas quatre, du chimpanzé, du sac hors de prix, du graphique, combat des chaînes, un Alsacien qui va crever avec ses idées, la remplaçante d'Anastasia qui fait wow wow wow, du Xav l'arsénisé pour la fête de la musique, une prog spéciale fête de la musique, et du film avec des couilles et du film de boule. Bon programme.
Nom d'un orage du 21 juin. J'allais dire non d'un sale Larsen dans les oreilles. Ils ont broqué tout ça. Heureusement, ils peuvent aussi fouiller dans nos archives. Laissez les commentaires, posez les questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.tk sans accent ni tiré. Ou sinon, n'hésitez pas à vous chercher dans Google supplément weekend, vous tombez sur nous, c'est pratique, c'est plus simple. La suite du programme sur Radio FMR avec, après, le cahier sportif qui va prendre comme de suite, Jazz Not Dead à 15h, ça c'est la bonne viande à 17h, Big Bang 18h, Made in Trance, c'est Hero Experience à 20h, 9 Love à 21h30 et le potager à 23h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec...
La semaine prochaine avec... le représentant, l'esclave de Maliki, Souillon.
Interview nous... rarissime, hein. C'est pas souvent qu'il en donne. Là, on en a chié pour la voir. Ça fait 6 mois qu'on vous la garde de côté au frais. On s'est dit, ça va vous faire plaisir pour l'arrivée du second tome.
Alors vous, fans de Feanor, de Feia et tout ce qui est trop kawaii et Cro-Magnon, eh ben, vous aurez votre interview la semaine prochaine et guettez le site de l'émission car vous verrez des petites affiches qui vendront l'événement.
Voilà, il y aura des petits bonus visuels pour le coup. C'est pas très radiophonique, mais on s'en fout. Voilà, ciao, bye bye, rendez-vous la semaine prochaine donc pour cette émission exceptionnelle. Je vous cède de suite la place à du sport qui a sûrement des choses beaucoup plus intéressantes à vous dire que moi. Ciao.